Merci Stéphane et pour tous ces compliments. Je vais donc répondre à cette demande qui est absolument infernale, hein, écrire l'histoire à l'heure numérique, à l'ère numérique, enjeux et perspectives. Et surtout quand quelqu'un comme moi n'est pas historien, même si j'ai pu travailler avec Philippe Rogiel, avec Gérard Noiriel, etc. Donc, vous allez voir démarrer peut-être assez lentement et excusez-moi, assez doctement pour après basculer dans un régime d'exemples qui vont, j'espère, nous poser toute une série de questions ou nous apporter pas mal de réponses. Alors, je vais évidemment me focaliser sur les trois mots du titre, hein, histoire, écriture et numérique. Pour les perspectives, je vous laisserai faire. Et partir aussi de quelque chose qui n'est peut-être pas complètement démontré, mais au moins de l'ordre de l'intuition dans... quand on est confronté à notre pratique de chercheur avec l'ordinateur, c'est que l'ordinateur et l'Internet renouvellent les épistémologies des sciences sociales et plus particulièrement de l'histoire. Vous verrez que j'insisterai beaucoup sur la présence de l'ordinateur que l'on a tendance à oublier quand on parle de l'Internet ou du numérique. Donc, peut-être commencer par... propos un peu généraux, ce qui renvoie à ce que j'appelle technique et réflexivité, qui est une manière un peu à la fois humoristique et tout à fait sincère d'essayer de comprendre en quoi la technique non seulement nous aide à penser, mais nous fait penser, voire contraint notre pensée, hein, pour se rappeler de manière tout à fait concrète, j'espère, que... effectivement, pour continuer la notion d'intuition que j'ai évoquée tout à l'heure, avec des opérations qui peuvent être, qui sont faites par des machines, donc a priori sans aucune intelligence, nous avons l'impression de produire du sens. C'est exactement ce qui se passe quand, par exemple, on casse, par exemple, le sens d'un texte pour s'intéresser à la juste à sa structure lématisée, qui est en général à peu près illisible, pour essayer de faire des comptages statistiques et après, derrière, des analyses factorielles. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que ces opérations mécaniques banales, elles ne sont, comment dirais-je, elles ne se font, produisent peut-être plus dans les mêmes circonstances qu'il y a quelques siècles ou millénaires. C'est-à-dire, d'une part, elles sont adossées à des savoirs complexes. Par exemple, nous savons faire des statistiques de la lexicométrie, mais peut-être pas écrire un système d'exploitation complet. Et ces savoirs complexes qui renvoient donc à des ingénieurs, à des corporations, à des professions, qui sont toutes entremêlées dans des systèmes techniques. Bertrand Gilles décrit particulièrement bien, je reviendrai peut-être dessus, ces savoirs sont maintenant adossés à une industrie particulièrement lourde. Hein. On évoque souvent les cas de Google et Facebook. On oublie que, je ne me rappelle plus son prénom, mais l'ancien patron de Cisco, M. Chambers, expliquait à quel point il se réjouissait de l'essor du Web 2.0 parce que ça allait apporter beaucoup d'argent à ses employés. C'est évident que dans une des dynamiques du Web 2.0, c'est essentiellement de permettre une sorte de communication tous azimuts, que vous soyez dans une gare, dans un aéroport, chez vous, etc. Donc, si vous avez une multiplicité des échanges par l'intermédiaire de l'Internet, il faut une multiplicité de gares de triage pour gérer ça. Et Cisco étant à peu près la seule entreprise au monde qui fabrique des routeurs, avec ça coûte une fortune colossale, un routeur. Hein. Renater en achète certains qui coûtent à peu près 400 000 euros, et c'est un petit fournisseur d'accès à l'Internet. Cisco est le type d'industrie lourde, de grosses entreprises multinationales qui fait fortune avec l'Internet tout en étant un intermédiaire de nos opérations intellectuelles. Alors n'oublions pas qu'à cette industrie lourde s'ajoutent des étroits collectifs, comme par exemple des gens que j'ai rencontrés hier soir dans un café, je crois qu'ils m'ont dit qu'ils ont développé un logiciel qui s'appelle Analyse. Trêve de plaisanterie, je fais ici hommage à Stéphane Lamassé et à toute l'équipe du Piré. Je préfère dire Piré à Pire, moi, je trouve que ça donne une connotation un peu... D'abord... C'est un peu positif. Hein. Et deuxièmement, ça a une connotation qui n'est pas nécessairement appréciée par tout le monde en ce moment, si on pense à Athènes et au déboire des Grecs, mais ça donne toujours l'idée qu'on a la possibilité de s'évader, de prendre le bateau pour aller voir ailleurs. Hein. Voilà. Donc, voilà. Peut-être que la deuxième surprise est que cette idée que une technique, en l'occurrence, j'ai beaucoup insisté sur l'écriture, a des effets sur nos pratiques intellectuelles, qu'elles soient singulières ou collectives, ben, ce phénomène n'est pas du tout nouveau. Hein. Nous avons un peu l'impression que tout cela nous vient des informaticiens et des mathématiciens qui nous donnent de nouveaux outils. Quand, en général, les philosophes s'intéressent à la technique, ils remarquent, et j'en parlerai beaucoup tout à l'heure, je pense par exemple à Gilles Gaston Granger qui a écrit « Science et réalité », il faut vraiment lire ce genre de livre, il est assez récent, il date de 2001, et je ne sais pas qui connaît Granger, mais c'est un ancien professeur au Collège de France quand même, hein, quelqu'un de l'étoffe d'un Bouvresse, hein, pour dire les choses crûment. Effectivement, les philosophes se focalisent sur... Une histoire de la technique renouvelée par la science à partir de Galilée Descartes, on va dire, pour simplement. Et donc, elle serait un peu une sorte de fille de la science, et à ce niveau-là, avec la science, façonnerait autant nos rapports au monde qu'elle aurait, ça c'est la chose inattendue, des effets sur nos pratiques intellectuelles. Or, ceci... On nous le dit depuis bien longtemps. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure une photo de Jack Goody, qui est, à mon avis, un des plus grands anthropologues vivants, qui a beaucoup travaillé sur l'écriture en tant que technologie de l'intellect. C'est lui qui a défini ce concept et qui nous a bien montré à quel point cette influence de la technique sur nos manières de penser, cette pensée instrumentée, comme disent les philosophes comme Parroquia, existe depuis à peu près 5000 ans. Ce qui est beaucoup, si on regarde, on remarque que l'Internet n'a qu'une génération à peu près, une trentaine d'années, mais ce qui est aussi très peu, hein, si on considère que l'être humain a un langage développé, presque achevé, depuis, suivant les gens, 40 000 à 100 000 ans. D'accord ? C'est toujours instructif, notamment, je pense que les Australiens vont bien comprendre, que l'invention de l'écriture, on nous dit, ça fait très 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 longtemps. En fait, si on compte, c'est simplement 200 générations. 200 générations, quand vous imaginez que, les arrière-grands-parents de vos arrière-grands-parents ont dû connaître Napoléon, ça fait pas beaucoup. Hein. Voilà. Alors, je ne voudrais pas insister sur l'idée d'un Internet révolutionnaire, et en cela, je m'écarterai des discours laudateurs relatifs aux nouvelles technologies, à leur déclinaison Web 2.0, nouvelles humanités numériques, etc., comme vous l'avez déjà pressenti, mais plutôt qu'il est un révélateur de nos fonctionnements intellectuels, un révélateur de l'écriture. Et c'est pas simplement, je vais le montrer, je pense assez en détail, mais ce sera pas simplement l'Internet, ce sera l'Internet et l'informatique. Mais en fait, ce qui va, à mon avis, ce qui se produit surtout, c'est le fait qu'on est en ce moment dans un double régime littératien. Je reviendrai un peu sur ce mot tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a à la fois des habitudes qui nous viennent d'une écriture excessivement liée à l'imprimé, avec un art de rechercher les sources, de travailler avec une encyclopédie, de rechercher des mots dans un dictionnaire, etc. Et puis, on a de nouvelles habitudes intellectuelles qui se développent, par exemple, avec l'Internet, l'écriture électronique et réticulée de Clarisse Ehrenschmidt. Et c'est principalement, à mon avis, le fait qu'on ait deux systèmes techniques, j'ai envie de dire, de pensée, qui cohabitent, qui nous donnent la possibilité de mieux comparer l'un et l'autre et d'avoir du recul sur la technicité de nos pratiques intellectuelles. Alors, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de me poser la question de comment se fait-il que les historiens soient parmi les plus sensibles à cet état de fait et peut-être les plus capables de l'analyser. Je vais vous montrer que je ne dis pas du tout ça pour vous faire plaisir, mais que je pense qu'il y a des perspectives, des questions classiques de l'historien par rapport à la source, par rapport à la constitution de son objet, par rapport à la notion d'archive, qui font qu'ils ont peut-être beaucoup plus de recul que d'autres personnes, d'autres disciplines, qui prennent l'Internet comme un objet, je sais presque envie de dire, comment on va pouvoir dire ça, qui prennent presque l'Internet comme un enjeu commercial dans l'univers économique du travail académique. Ce que je voudrais essayer de préciser avec vous, donc ce sont les points qui sont évoqués ici, c'est quel changement s'opère dans le régime qui a priori stabilisé des échanges et des hiérarchies entre la pensée, pourquoi on dit la pensée au singulier et qu'après on dit tout le reste au pluriel, à savoir les sources de l'historien, les méthodes qui en permettent le traitement et les objets matériels, on peut y avoir peut-être plusieurs pensées, et en quoi cette spécificité de l'historien le rend sensible à ses déplacements et à ses perspectives. Donc je voudrais faire quelques premières analyses et pour rappeler peut-être que l'historien ne travaille pas qu'avec le temps. Hein. L'historien n'a pas que le temps pour matériaux d'analyse ni pour objets spécifiques. Il est engagé dans à la fois une lourde matérialité et des méthodes qui, peut-être renouvelées en ce moment, ont un lourd poids historique. Travaille avec des objets physiques et ces objets, ces méthodes se distinguent globalement l'organisation, par l'organisation de la société, système de pertinence propre à sa science. Il travaille sur un matériau pour le transformer en histoire et ce qui me semble important, c'est, on va insister là-dessus avec l'informatique, c'est la manipulation qu'il entreprend et à quel point cette manipulation obéit à des règles. On va parler tout à l'heure peut-être des règles de la programmation, mais il faudrait penser aux règles de l'écriture algébrique qui, à peu près mécaniquement, à partir d'une équation, mais d'une équation qu'il faut bien entendre comme un système graphique qui, par son efficacité interne, va vous permettre d'obtenir un résultat à l'issue de ces règles. Hein, je pense qu'on est dans une logique qui est tout à fait celle de l'historien. Et on sait aussi, ça c'est peut-être une spécificité de l'historien, c'est que les données qu'il a, c'est lui qui les a constituées, il met en perspective leur construction, et c'est ça qui lui donne une propension à la réflexivité, à partir du regard sur ses sources, ses méthodes, sur la notion de trace. Je dis sur la notion de trace parce qu'on rencontre en ce moment beaucoup d'informaticiens qui collabore avec les sciences humaines et qui se lance dans des études statistiques très très complexes sur ce que peuvent nous apporter les traces informatiques. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que cette naïveté des informaticiens par rapport à la notion de trace qui n'est absolument pas questionnée, on aimerait bien qu'elle soit un peu réduite par un échange accru avec l'historien. Et on sait que l'historien, historiquement, au moins depuis le XIXe siècle, mais peut-être encore plus aujourd'hui, a une position d'épistémologue du fait de sa possibilité à se poser ces questions au sein des sciences sociales. Mais déjà, par exemple, avant l'informatique, la collection, en produisant un bouleversement des instruments de travail, redistribue les choses, a redéfini des unités de savoir, elle instaure un lieu de recommencement en construisant une gigantesque machine qui rendra possible une autre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que simplement l'accumulation d'objets, même traduits de manière scribale, produit une réflexivité qui donne toute sa richesse au travail d'historien. Et la question que nous avons peut-être envie de nous poser, c'est pouvons-nous produire une autre histoire avec l'Internet et si oui, avec quels outils? On va dire, si on regarde ce qui se passe, je ne vais pas parler de l'essence de l'ordinateur, parce qu'on peut regarder que, accessoirement, si vous vous intéressez à la question de la technique, faites ce que j'ai fait trop tardivement, lisez Heidegger sur l'essence de la technique, c'est beaucoup plus facile à lire qu'on peut le croire. Vous verrez que le monsieur est un grand poète qui fait une référence systématique aux Grecs et globalement, il. Qu'est-ce que je voudrais dire exactement ? Il est pris d'un vertige avec les nouvelles technologies de l'époque, qui est particulièrement amusant. Ce que je veux dire par là, c'est que, surtout si on lit un peu Deleuze derrière, ou si simplement on regarde ce qui se passe dans l'univers des sciences exactes ou de l'histoire, on se rend compte que ce qu'il écrit sur la technique, c'est pas sérieux. Hein. Bon, pour le dire autrement, il est dans une quête de l'essence qui est, et ça Deleuze l'a bien montré, typiquement inefficace. Donc, mais si je voulais jouer sur la notion d'essence de l'informatique avec le caractère binaire de son écriture, je dirais que c'est évidemment avec les chiffres et les nombres qu'on pourrait peut-être produire une autre histoire par l'intermédiaire de l'Internet. Et c'est vrai, moi je me suis rendu compte que dès que j'ai travaillé avec des personnes comme Gérard Noiriel, Jean-François Chanet ou Philippe Rigiel, entre la démarche de l'historien et la démarche de mathématicien, j'ai toujours vu beaucoup, beaucoup de liens, non seulement par le goût d'un nombre avec une volonté de prendre la distance par rapport à ça, mais aussi dans la manière de refuser d'appréhender trop de manière trop générale des blocs, je vais dire, sociaux, des collectifs, sans se poser la question de leur définition. Il y a une sorte de goût pour le singulier qui me semble très très proche de la démarche mathématique. Et donc, on pourrait dire qu'au chiffre, qui est un code qui est finalement quand même destiné à construire un ordre, s'oppose le symbole. Certes, du côté du chiffre, depuis des séries de raretés jusqu'au langage artificiel, qui sont les nôtres, les seuils et les détours sont nombreux. Néanmoins, ils s'inscrivent sur l'horizon de la construction d'un langage propre à l'histoire, et donc de la production de techniques et d'objets propres. Et si nous fouillons un peu ce que nous faisons avec les ordinateurs, nous comprenons que l'homogénéité du métier d'historien est brisée. Et Philippe Rigiel nous l'a bien décrit. Son travail traditionnel reflue dans le temps préparatoire de programmation, par exemple, quand on est confronté à l'informatique et qu'on programme un peu. Il est rejeté à l'autre bout dans le temps d'exploitation qu'ouvrent ses résultats. Et ce travail s'élabore sous une double contrainte, d'une part en fonction des interdits que fixe l'ordinateur, ou que fixe notre inculture, j'insisterai là-dessus tout à l'heure, et en fonction de ce que permet cette machine par une manière de traiter les produits de l'informatique. Nous comprenons donc que ces deux opérations s'articulent sur une institution technique qui aujourd'hui n'est plus que savante, elle est lourdement industrielle, et que cette institution inscrit chaque recherche dans un système généralisé. On pourrait, sur ce plan, raisonner en termes de néo-histoire comme les l'homme les géographes parle de néo-géographie. Si je veux le dire autrement, je réalise que l'utilisation des techniques actuelles d'information amène l'historien à se séparer, des méthodes qui étaient, je veux dire, dans un continuum de son travail, c'est-à-dire la construction des objets de recherche et donc des unités de compréhension, l'accumulation des données qui deviennent souvent des informations secondaires, un matériau raffiné par les logiciels, et l'exploitation rendue possible par les diverses opérations dont ce matériau est susceptible. Donc on est dans une situation qui est un peu troublante, où on a une informatique qui a priori n'est qu'un outil et génératrice de réflexivité, qui nous convainc que l'établissement des sources par la médiation des ordinateurs en réseau et de leurs logiciels, et le principe d'une redistribution épistémologique des moments de la recherche scientifique. On pourra détailler ça tout à l'heure. On pourrait se demander, du coup, si cette nouvelle stratégie de la pratique historique la prépare à une théorisation plus conforme aux possibilités offertes par les sciences de l'information, dont il se pourrait qu'elle spécifie de plus en plus non seulement les méthodes, mais aussi la fonction de l'histoire dans l'ensemble des sciences actuelles. Et quand on pense sciences de l'information, on pense un peu évidemment aux physiciens, aux systèmes complexes, et puis aux nouveaux rapports, on pourrait dire de dialogue, mais peut-être de force, qui se construisent entre les disciplines, notamment entre les sciences humaines et les sciences exactes. Alors, je voudrais peut-être m'assurer que vous êtes à peu près d'accord avec cette perception qui me semble être typique de notre pratique contemporaine quand on est confronté à l'informatique, à l'Internet, au réseau, aux données qu'on peut récupérer sur le web. D'accord ? Alors, je vais remercier énormément Michel de Certeau, dont sont tirées toutes les phrases que je viens d'énoncer. Hein? L'écriture de l'histoire, Gagnémard, 1975. On peut faire circuler si vous voulez. Fabuleux. Ce que je voudrais dire, comme ça, c'est pour ça que je vous prie de m'excuser d'avoir un peu lu mon texte jusque-là. Hein? On est d'un seul coup obligé de se demander, je veux dire, en 1975, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de crowdsourcing, etc. Hein? On est quand même dans une situation où vous avez une personne qui a une lucidité que je ne rencontre jusqu'à nouvel ordre chez quasiment personne qui nous parle. Alors, allons-y, Franco. De la manière dont les sciences humaines vont être révolutionnées par l'informatique, la mise en réseau des gens, les nouvelles, la possibilité de travailler sur les traces, j'en passe des meilleurs. Hein. Excusez-moi d'avoir mis deux M à numérique. et que ce phénomène est encore plus flagrant si on dépasse le discours généraliste pour s'intéresser à des disciplines précise, regardez dans le détail comment elles évoluent, par exemple l'histoire. Donc, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est quand même quand on vous demande de venir faire une conférence sur écrire l'histoire aujourd'hui à l'ère du numérique, on est obligé de penser à l'écriture de l'histoire. Ça donne le vertige parce que je veux bien avoir quelques qualités, puis on a énoncé avec Faconde quelques-unes, mais je ne me sens encore pas l'étoffe d'un Michel de Certeau et je suis content d'avoir quelque part honoré mon contrat en parlant d'écriture de l'histoire et en le sollicitant grandement. Ce que je voudrais dire aussi avec peut-être un peu d'humour, c'est qu'en choisissant de faire appel à Michel de Certeau, j'ai évidemment privilégié une certaine écriture de l'histoire, sachant qu'en plus je m'exprime à la Sorbonne, et je fais écho à tous les dispositifs institutionnels qu'évoquait Michel de Certeau dans les citations précédentes, comme maintenant. Alors maintenant, on peut effectivement faire retour à l'informatique littéraire et se poser la question de, j'ai envie de dire, l'écriture de l'histoire comme enjeu historique aujourd'hui. Hein. Enjeu autour de l'écriture telle qu'elle a pu être renouvelé par l'informatique et l'Internet, c'est-à-dire est-ce que effectivement le point de départ, c'est en France par exemple, c'est l'essor des humanités numériques dans les années 2000-2005, ou est-ce que c'est la cellule informatique littéraire de l'ENS en 1991 avec Daniel Béguin, Christine Ducourtieu? D'autres personnes prétendent que non, ça se passait avant l'Internet, par exemple auprès des littéraires dans les années 1988. Donc il y a une revendication, il y a des enjeux, j'ai envie de dire, politiques dans l'univers, dans l'université, pour le dire simplement, qui sont tout à fait liés au fait de savoir, d'identifier ou d'affirmer que c'est tel groupe, telle personne, tel lieu qui le premier s'est emparé de ces enjeux. On pourrait évoquer aussi d'autres personnes qui sont intervenues et dans cette cellule et après dans l'équipe Réseau Savoir et Territoire. Alors je pense à Gérard Noiriel, Claire Zalk, Nicolas Manikakis, Jean-François Chanet, mais aussi un géographe comme Hervé Théry et les membres de l'équipe Réseau Savoir et Territoire qui s'est construite en 1998 et qui, ça c'était un plaisir que m'a offert l'éditeur, après bon, presque 13 ans de fondation, j'ai eu la possibilité de réunir tous les membres actuels de cette équipe dans l'ouvrage rose que, qui circule. Il y a aussi l'idée que, bon, j'ai évoqué pour les humanités numériques dans les années 2000-2005, mais la volonté peut-être de certains acteurs de l'informatique et de l'Internet en relation avec les sciences humaines de se définir tout de suite comme des fondateurs de façon à apparaître comme tel dans une histoire qui se fera peut-être dans 15 ou 20 ans. Et donc vous avez peut-être lu avant moi la suite. Ce que je voudrais dire, c'est que les enjeux sont lourds et ne peuvent nous rendre optimistes. Si vous regardez un peu cet ouvrage que je peux aussi faire circuler, vous vous rendez compte que un des contributeurs s'appelle François Furet. Et il vous fait un chapitre sur le quantitatif en histoire. Vu sa progression au sein de HESS, je crois qu'il a commencé comme ingénieur de recherche, il ne faut pas l'oublier, je ne désespère pas qu'un jour, et si possible avant que je sois retraité, tu pourras prendre sa suite. Alors, ces points passés, je voudrais insister sur autre chose, c'est le poids du vocabulaire de Michel de Certeau dans les extraits que je vous ai cités. Alors, les extraits que je vous ai cités, éventuellement, d'ailleurs, je dois pouvoir... Qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus ? Bon. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu à quel point ils étaient lourds de... matérialité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une pensée pure, éthérée. Hein, j'ai enlevé les adjectifs les plus fréquents, les démonstratifs, les prépositions, etc. Et vous voyez que, évidemment, il y a des mots comme histoire, historien qui apparaissent beaucoup, mais objet, information, machine, matériaux, appareil, données, exploitation, méthode, opération, science, système et technique. Hein. On est quand même dans un lexique de 250 mots à peu près. Hein. Comment ? Ça, c'est énorme pour un corpus. 249 mots, ça fait une page. Hein. Donc, c'est. Oui, oui, non, c'est assez conséquent. Donc, si je regarde la fréquence à la louche, j'avais calculé, je pense que. Si je prends au moins les mots que j'ai évoqués, il y en a, ça en fait en fréquence 20 ou 30, 30 sur 249, ça fait presque entre un huitième et un dixième. Quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de poids de la matérialité dans le discours de Michel de Certeau qui est très important. Je fais circuler, après tout, ces trois ouvrages. Je regarde ce que j'ai là. Tiens, c'est bien. Et je voudrais juste faire une sorte de blague, de private joke, en disant, bon, je vais beaucoup insister sur la manière dont la technique peut renouveler, contraindre la pensée et jusqu'à l'épistémologie des disciplines, et essayer de regarder ce qui peut se passer dans le domaine de l'histoire, mais on pourrait aussi se poser une autre question, c'est est-ce que des sciences qui peuvent, ou des sommes de savoir qui peuvent nous sembler particulièrement intellectuelles ou théoriques, ne peuvent pas, elles aussi, relever de la technique. Et j'ai trouvé cette autre citation de Michel de Certeau qui me semble exemplaire et que j'utilise beaucoup, et indépendamment de cette conférence aujourd'hui, hein, que je relis. « Le récit de la relation d'exclusion et de fascination, de domination et de communication avec l'autre, poste rempli tour à tour par un voisinage ou un futur, permet à notre société de se raconter elle-même grâce à l'histoire. » Donc ici, l'histoire apparaît effectivement comme un instrument pour la société, de façon à ce qu'elle produise une narration sur elle-même. On pourra remarquer que de manière générale, je reviendrai un peu sur la question de la technique si vous le voulez tout à l'heure, la technique est aussi un instrument essentiel de la narration des sociétés sur elles-mêmes. En l'occurrence, l'Internet. Alors, maintenant que j'ai parlé de l'histoire à l'ère du numérique, de l'histoire et de l'écriture de l'histoire, je voudrais insister un peu plus sur la question de l'écriture en essayant de la prendre sous deux angles, un angle anthropologique et un angle beaucoup plus contemporain. Alors, je pense qu'on peut être assez d'accord sur le fait que l'écriture est une technique. Il suffit de nous regarder faire, de vous regarder faire, hein, en s'en rendre compte que c'est un savoir-faire plus qu'un savoir qui se transmet, qui requiert un apprentissage, comme le métier, l'expérience du cordonnier, qui sollicite donc des transmissions. Il y a beaucoup de répétitions. On passe notre temps à cliquer toujours au même endroit, à faire des enregistrés sous, à faire des recherches en place, à chercher dans des dictionnaires, etc. C'est profondément mécanique et par ce biais-là, pas excessivement intellectuel. L'écriture, dans sa dimension informatique, mais aussi algébrique, obéit à des règles. Mais il n'y a pas que les règles de l'algèbre, de l'informatique ou de la programmation informatique. La grande distinction entre quelqu'un comme moi et quelqu'un qui sort de Cagnes, par exemple, parce qu'il y a l'itinéraire Matsup Matspé, c'est comme l'explique très bien Philippe Rigiel, c'est qu'en Cagnes, on apprend à faire une dissertation. C'est-à-dire que la dissertation est quelque chose qui est quelque part réglé, même si c'est complètement implicite dans la formation, au moins dans les années 80-90. L'écriture sollicite aussi beaucoup de collectifs et une énorme matérialité. La matérialité, si on ne s'en convainc pas, donc regardez le poids de l'ordinateur que j'ai transporté et des livres, mais rappelons-nous aussi que, par exemple, la bibliothèque de l'ENSIB, il y a eu un souci quand elle a été reconstruite, c'est que dans le cahier des charges, il a été supposé que chaque mètre carré allé au premier étage du sol devait soutenir une tonne. L'architecte a fait qu'elle ne soutenait que 800 kilos et ça a posé d'énormes problèmes de réorganisation de la bibliothèque. Si on se pose la question de l'Internet, et si on fait appel à ces machineries que sont Google, Cisco et l'ensemble des câbles qui circulent sous nos maisons, sous nos routes, etc., on se rend compte qu'il y a aussi une lourde matérialité. Alors, suivant les cas, l'ensemble des personnes comme Jack Goody, Christian Jacob, etc., qui s'intéressent à l'écriture, considèrent qu'elle est composée de trois ingrédients essentiels. Hein. Ou un support confondu avec un système de signes, ou, ça c'est mon option, un support distingué du système de signes. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins avec l'informatique, on se rend compte que le support et le système de signes ne fonctionnent pas. Mais depuis Kirchner, peut-être, d'ailleurs, depuis l'invention de la lanterne magique au XVIIe siècle. En l'occurrence, le système de signes est stocké sur mon disque dur et le support de l'écrit, c'est ou cet écran ou celui qui est derrière moi. Le système de signes, on va considérer, par exemple, que c'est l'équivalent d'un alphabet dans nos sociétés. Mais l'écriture ne fonctionne pas sans un intense échange social et sans quand même un exercice intellectuel. Alors, Jack Goody explique que c'est essentiellement l'écriture, c'est ce qui a conduit à la défaite de la magie, au sens où ça donne la possibilité de comparer, d'analyser, de synthétiser. Si je suis dans un pur régime de réalité et que je demande à trois personnes de me raconter un fait qui s'est produit, je vais entendre très certainement des choses différentes, mais surtout, ces énoncés vont se produire dans des temporalités différentes, donc je vais avoir énormément de difficultés à me dire, tiens, au milieu du discours, la deuxième personne a été plus précise que la première, mais en fait, la première personne, dans la troisième partie de son discours, a beaucoup évoqué ce que la seconde a dit dans sa première, par exemple. Quoi. Donc, je pourrais insister là-dessus tout à l'heure. On a vraiment la possibilité de non seulement de dialogue dans le temps et dans l'espace, puisqu'on peut de manière métaphorique discuter avec Aristote, qui n'était quand même pas à Paris, mais à Athènes. On a la possibilité, de manière simultanée, de faire un travail de comparaison, de repérage de sources, etc. Et c'est quelque chose qui nous sauve de l'illusion que je voudrais distinguer de l'imagination à la suite de Gilles Gaston, hein, les 3G, Gilles Gaston Granger, que je fais circuler en ce moment. Enfin, c'est une technique qui se situe entre le matériel et l'immatériel, qui peut s'affiner au fil du temps, au point qu'on a l'impression que l'immatériel n'est plus très tangible. Par exemple, une feuille de papier, ça commence à être quelque chose de largement immatériel, entre l'objectif et le subjectif. Donc tout ça, c'est un peu les travaux de Jack Goody. Et puis, on peut en donner des preuves de l'efficacité intellectuelle de l'écriture, qui se distingue profondément de l'oralité, par exemple en termes de comparaison, de synthèse, d'accumulation des savoirs, de construction de monde lettré. Un exemple parmi les plus naïfs, mais qui fonctionne encore beaucoup aujourd'hui avec l'informatique, est la possibilité de construire des listes. Vous savez que les anciens étaient très friands de la construction de listes qui n'avaient pas nécessairement grand sens. Alors des fois, ça allait. C'était la liste de tous les oiseaux, c'était la liste de tous les poissons qu'on pouvait pêcher au filet, avec un filet, pour faire une allusion à Aristote. Le fait de faire des listes, ça a deux effets. Le premier effet, c'est que ça donne envie. La liste, c'est une sorte de premier outil, d'outil élémentaire qui se construit à partir de l'écriture. Et ça donne envie de construire des outils sur les outils. Par exemple, de faire des listes de listes ou de faire des outils qui vous permettent de trier des listes, de construire l'union, l'intersection de deux listes. L'exemple plus simple étant que si vous faites la liste des fruits et la liste des légumes, à un moment vous allez rencontrer quelque chose qui est à la fois un fruit et un légume, comme la tomate. Le deuxième effet intellectuel de la liste, c'est la distanciation, c'est-à-dire une perte de sens produite par le fait, par exemple, de considérer tous les mots de quatre lettres. Si je prends tous les mots de quatre lettres, je vais voir que veau et chat sont très proches, et que du coup, veau peut apparaître plus proche de chat que de vache, et voilà un écart qui va produire du sens par l'intermédiaire d'une production de catégories. On a aussi d'autres preuves qui sont cette fois-ci données par Christian Jacob, qui explique comment, face à la déferlante de papyrus qui était accumulée par ordre, par choix politique à la bibliothèque d'Alexandrie, les anciens, bon, j'ai envie de dire les chercheurs de l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie avaient énormément de mal à se repérer dans les variantes qu'ils pouvaient récupérer. C'était d'autant plus délicat que les injonctions des Ptolémées, c'est-à-dire les rois empereurs de l'époque, allaient, pour récupérer absolument tous les savoirs, et surtout les savoirs écrits de Lecoumène, avaient fait comme choix de perquisitionner tous les navires qui arrivaient dans le port d'Alexandrie, de récupérer tous leurs papyrus, et non pas de les rendre une fois qu'ils étaient recopiés, de les recopier hâtivement dans la nuit et de rendre la copie au capitaine du navire le lendemain. Vous imaginez que si le capitaine du navire part avec une copie qui revient deux mois après, on lui vole sa copie, on en fait une copie, on lui rend une copie de copie, et là, vous imaginez à quel point le nombre de variantes peut exploser. Et nos personnes en quête d'originalité, on pourrait évoquer le fait qu'elle était très très dure à obtenir et à construire, et peut-être qu'elle n'existait pas, avaient donc pris l'habitude d'essayer de marquer sur des papyrus les moments où on pouvait supposer qu'un fragment de texte était authentique, un moment où ce n'était qu'une variante, un moment où il était absolument ou sans intérêt ou voilà, ou sans intérêt. Et ils ont fait le choix d'une annotation non destructive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas arraché le papyrus pour le corriger. Mais le problème, c'est que la marge sur les papyrus était particulièrement étroite, vous avez droit à peu près à 2 cm. Donc ils ont inventé un nouveau système de signes pour signifier, tiens, là c'est quelque chose de correct, là c'est une variante à laquelle il faut être attentif, l'autre à laquelle qui ne présente aucun intérêt. Par exemple, il y avait un obélos, une sorte de petit trident qu'on pouvait signer comme ça. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on réalise que la matérialité propre au papyrus génère la production d'un système de signes qui lui-même va avoir des effets intellectuels, parce qu'à un moment ou un autre, quand trois générations après cette inscription, les personnes vont relire le papyrus, il va bien falloir comprendre ce que Eratosthène avait en tête pour arriver à non seulement lire correctement le texte, mais comprendre toutes les strates intellectuelles qui se sont construites sur ce texte. Je pense que là, les historiens me comprendront bien. Et peut-être remarquer aussi que l'écriture, par l'intermédiaire de ses savoir-faire, génère un qui est propre, alors, et qu'il ne faut pas prendre sur un angle purement utilitariste, hein, ce n'est pas simplement l'art de remplir une feuille de sécurité sociale, mais ce sont des savoir-faire qui vont mener à des types de spécialisation. On peut remarquer par exemple que le médiéviste a un savoir-faire en matière d'écriture médiévale que bien peu de Français savent lire, décrypter et en comprendre le tissu de référence qui permet la navigation d'un texte à l'autre. Tout comme on peut remarquer que l'ingénieur du XIXe siècle était quelqu'un qui avait aussi une certaine compétence scribale qui lui était spécifique et qui se redéployait dans des métiers, dans des savoirs, dans des cultures, quoi. Et comprendre aussi les effets de cette littératie, c'est-à-dire l'ensemble de ces savoir-faire, et ne pas négliger le fait, et c'est peut-être là que ça va être intéressant de comprendre ce qui se passe avec la littératie électronique, c'est-à-dire avec les savoir-faire, j'ai envie de dire, les savoirs qu'on va pouvoir déployer à partir de l'acquisition des savoir-faire en matière de programmation, de manipulation de données, de logiciels, hein, de comprendre que les érudits, les gens qui savent écrire, qui ont une sorte de... Les professionnels de la gymnastique de l'intellect ont toujours eu un énorme poids dans la construction des cultures. Jack Goody donne l'exemple de quoi ? Du théâtre au XVIIe siècle. Shakespeare était lu, ses pièces étaient jouées. Il est évident que c'était exclusivement les personnes qui savaient lire qui pouvaient lire Shakespeare, c'est clair. Mais en même temps, elle a fait un effet particulièrement normatif puisque le théâtre shakespearien a eu un succès populaire du fait que ces érudits invitaient au théâtre, par les effets de lui dire, des personnes qui ne savaient pas lire. Alors, peut-être... dis-moi peut-être combien de temps il reste ou... Hein ? D'accord. Rappeler aussi les défauts de l'écriture, mais montrer les perspectives qu'elle nous offre. Au chapitre des défauts, il y a ce qu'on appelle la faible valeur d'illocution. La valeur d'illocution, c'est la valeur de la capacité à se faire comprendre de quelqu'un, d'un orateur. Ce terme n'est pas de moi, il est de David Olson, qui est un étudiant de Goody, qui a aujourd'hui à peu près 75 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle, on a mille et un moyens de se faire comprendre. D'abord, il y a l'intonation, après, vous voyez tout de suite, là, on parle avec les mains. Quand on veut faire une citation, on prend un autre ton. Et alors, il a dit, ta-da-da. Bon. Donc tout ça nous aide énormément à comprendre le message, le sens des choses. Or, avec l'écriture, surtout à ses débuts, tout cela n'existe pas. Il a fallu un temps considérable pour arriver à inventer des mots comme « il a voulu dire que », « il a signifié que », « il a sous-entendu que », ou simplement inventer un système de signes comme les guillemets, les tirer pour dire ah, attention, là c'est quelqu'un qui va parler. Hein. Donc compenser par un système scribal spécifique une valeur d'illocution qui est particulièrement faible et qu'on rencontre encore aujourd'hui. Regardez la capacité qu'on a à se mettre en colère par mail, c'est fondamentalement lié à ce défaut illocutoire de l'écriture qui fait que si on s'exprime un peu vivement par écrit, les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques que si on s'exprime un peu vivement par oral. Parce que, bon, si je veux lancer une boutade, tout de suite ça se voit, j'ai les yeux rieurs, etc. Et ça, j'arrive pas à le dire, à l'écrire. Hein. D'où l'importance des smileys, peut-être, etc. Donc ça sollicite cette valeur illocutoire sollicite des professionnels. Il faut rappeler que, et ça c'est quelque chose qui peut intéresser les historiens, c'est que les professionnels de l'énonciation, ça fait dans toutes les sociétés, même dans les sociétés orales, ils ont été tels quels, c'est-à-dire on a toujours fait appel à des experts qu'on a formés. Alors, c'est comme ça que j'ai pu découvrir des mots que je ne connaissais pas, comme le rhapsode, qui est donc quelqu'un qui doit être l'équivalent du griot, j'imagine, en Europe. Et que la compensation s'est produite non pas en essayant de représenter des idées ou des choses, comme on le croit souvent, mais benoîtement, j'ai envie de dire naïvement, en essayant de se focaliser sur le moyen de représenter des énoncés. Ce qui fait que par l'intermédiaire de l'écriture, c'est là on voit bien comment une technique devient particulièrement réflexive, on découvre des propriétés du langage qu'on ne pouvait pas découvrir auparavant. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait l'allusion, par l'intermédiaire de l'informatique et de l'Internet, on peut peut-être découvrir des propriétés de l'écriture et de nos raisonnements qu'on ne pouvait pas découvrir auparavant. Accessoirement, c'est exactement ce que disent les linguistes. Des personnes comme Bernard Victory vous explique que l'informatique est à la linguistique, ce que la lunette de Galilée est à l'astronomie. La lunette de Galilée, elle n'a jamais été inventée pour développer l'astronomie. Hein. Elle a été inventée pour voir de plus près, hein, grossissement 6 fois. Hein. Elle n'a pas été inventée par Galilée, elle a été inventée par les experts de la Dinanderie, qui étaient les Belges de Dinan et de la région, Liège, etc. Dinan, je ne sais plus si c'était français ou belge à l'époque, un peu amélioré par Galilée, et c'est ça qui lui a permis de voir les satellites de Jupiter. C'est l'écriture qui nous permet de comprendre comment le langage est structuré, qui nous permet d'avoir une conscience métalinguistique. Et David Olson donne l'exemple délicieux que je reproduis ici. Il a écrit 3 petits cochons devant sa petite fille, et il a dit, tu vois, là, c'est marqué 3 petits cochons. Et après, il masque cochon, et il lui dit, qu'est-ce que tu vois là? Et la petite fille répond évidemment, 2 petits cochons. Et tout comme les gens ont beaucoup de mal à imaginer que on ne peut pas comprendre la structure du langage si on n'a pas l'écriture. Hein. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un nom, un prénom, un complément si vous n'avez pas d'écriture. Alors, ce n'est pas toutes les écritures, il ne faut pas que l'écriture soit syllabique. L'écriture syllabique est quelque chose qui est excessivement facile à inventer, excessivement facile à apprendre, hein, parce qu'en fait, toute langue a à peu près 200-300 syllabes à son actif et manipuler 200-300 signes qui font référence à des syllabes, des phonèmes, disent peut-être les linguistes, c'est assez facile à comprendre. Alors, en revanche, une écriture qui soit complète est peut-être plus difficile à construire et beaucoup plus difficile à assimiler. Au niveau de la conscience métalinguistique induite par l'écriture, Olson fait remarquer que si vous arrivez à comprendre notamment qu'un B, ça va faire que chaque fois que vous allez voir ce signe-là, vous allez prononcer B comme bateau, etc. Si vous n'avez pas l'écriture à votre disposition et que vous dites aux gens, tu vois, quand je dis poisson, il y a le son P, prononce-moi poisson sans le P, les gens ne savent pas faire. Donc, pour vous montrer quand même qu'il y a un écart qui nous donne une perspective, une réflexivité. Alors, on pourrait du coup se poser, et c'est peut-être une des questions que vous me demandez en ce moment, hein, comment, qu'est-ce qu'est écrire à l'ère numérique, c'est du coup, qu'est-ce que c'est qu'un érudit? C'est un érudit dans l'acception classique, c'est quelqu'un qui est un grand spécialiste de l'écriture. C'est quelqu'un qui relève, dirait Christian Jacob, des mondes lettrés. Et moi, je finis par avoir l'impression, en regardant le recul réflexif que me donne la pratique de l'écriture informatique, que l'érudit est peut-être un jongleur, un gymnaste de l'intellect, comme je le disais, c'est-à-dire simplement quelqu'un qui joue avec des mots comme d'autres jouent avec des balles. À part que dans des régimes spécifiques d'écriture, on peut peut-être se dire que on voit bien ce que c'est qu'un mot, on voit bien ce que c'est, par exemple, quelque chose qui n'est pas un mot, un nombre, hein, et que maintenant, ce que nous apporte l'informatique, c'est une confusion entre l'un et l'autre. C'est des choses qui nous troublent, mais on sait très bien que avec une expression régulière, on attrape un peu tout ce qu'on veut. Regardez, si vous, il y a encore quelque temps, on était, notre schéma de pensée, nos formations discursives, j'ai envie de dire, étaient structurées autour de l'opposition entre le mot et le chiffre, hein, entre les lettres et les sciences, j'ai envie de dire. Mais quand je dis ça, je ne blague pas, je veux dire l'école normale supérieure. Vous avez à l'entrée un bas-relief avec une femme qui représente les lettres et une femme qui représente les sciences. On va dire oui, d'accord, c'est joli, c'est 19e siècle. Aujourd'hui, elle s'est intégrée dans un campus multi-universitaire qui s'appelle Paris Sciences Lettres. Je dirige un numéro de revue savante numérique, parce qu'il se lance aussi dans le numérique, sur comment les épistémologies des sciences humaines se reconfiguraient par l'informatique et l'Internet. Cette revue s'appelle la revue Sciences-Lettres. Donc, vous voyez, les oppositions classiques ont la vie dure. Hein. Or, depuis, on est particulièrement familiarisé depuis l'essor de l'Internet, avec des URL qui ont comme contenu http://www.123people.com. Bon, que le commun des mortels ait l'habitude de manipuler des choses, des formes graphiques où la ponctuation et le chiffre circuler confortablement au milieu des lettres, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Alors la question pourrait être aussi, et je pense que c'est celle des humanités numériques, est-ce qu'on profite de la technicité actuelle sans réfléchir, ou est-ce qu'on va participer au dévoilement réflexif qui a toujours accompagné l'écriture et ses mutations? Pour le dire autrement, est-ce qu'on va profiter de tous les outils que de généreuses personnes, souvent informaticiennes, vont fabriquer pour nous autres, pauvres littéraires, incultes en matière d'informatique, ou est-ce qu'on va essayer d'ouvrir la boîte noire pour comprendre exactement ce qui se passe, quelles sont les limites d'une méthode, les risques que nous prenons en choisissant un certain type de visualisation ou en privilégiant tel graphique factoriel etc. Ou est-ce que effectivement on va vouloir ouvrir la boîte noire? Mais ce que semble dire Olson, c'est que ouvrir la boîte noire, c'est particulièrement précieux parce que c'est ça qui vous permet par exemple de comprendre la structure de la langue et peut-être en amont la structure de l'écriture et pourrait-on dire la structure de la pensée. Alors si on se lance sur la question de la structure de la pensée, on va rentrer encore dans un autre domaine philosophique. Je ne voudrais peut-être pas en parler trop aujourd'hui parce que je découvre un petit peu en ce moment. Ceci dit, la question de la relation entre la pensée et la technique est bien abordée par Granger. Et pour les personnes qui s'intéressent aux mathématiques et à leur histoire, quelqu'un comme Adamard, donc un grand mathématicien du début du siècle, disait « le calcul pense ». Donc, comment se peut-il qu'une série d'opérations mécaniques, on va dire, la preuve réalisable par un ordinateur, puisse mener à ce qu'on considère être de la pensée, Je pense que là, il y a toute une série de questions qui sont très intéressantes. Donc, je pense qu'on peut voir toutes ces choses-là en ce moment, parce que la technologie scribale est en mutation. Donc elle bouge, elle est en train de se faire, mais aussi essentiellement parce que l'ancienne est encore là, c'est-à-dire qu'on profite de cette mise en perspective. À partir de là, puisqu'on est en train de comprendre que ce n'est pas d'aujourd'hui que la technique est essentielle au développement de la pensée, que la pensée est instrumentée, comme le disent les philosophes, on est obligé de se demander, mais comment ça se fait qu'on ne nous le dit jamais, hein? Quel est ce mythe de la pensée pure qui peut structurer non seulement par boutade nos écoles de pensée, hein? Alors ce mythe de la pensée pure, et on sait qu'il est particulièrement développé chez les historiens, je sais que c'était la grosse confrontation de l'informatique littéraire à Ulm, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que nous, puisqu'on était des techniciens, on ne pouvait pas penser, et les personnes qui étaient dans leur sphère, qui avaient des savoirs que moi je considère maintenant comme techniques, bon, quelques savoirs en matière de grec ancien, qui des fois étaient infiniment moins réflexifs que ceux que peut avoir Christian Jacob, alors là, on était dans une sorte de divinité extatique, où les gens étaient dans leur limbe, etc. Bon, cette question de la pensée pure, quand je la prends de manière polémique comme ça, je fais rire et j'en réjouis, et je peux tout de suite m'attirer les foudres des tenants de l'institution qui me disent « mais non, j'ai rien compris ». Ceci dit, ça vaut le coup de lire François Dagonier, que je n'ai pas ramené parce que je ne voulais pas trop m'alourdir, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Matérialité ». François Dagonier, c'est une belle découverte de Lyon. C'est quelqu'un qui a fondé l'école d'épistémologie lyonnaise, qui a beaucoup travaillé sur la matérialité, sur l'interface, etc., et qui a beaucoup travaillé sur le mythe de la pureté. Et j'ai quelques exemples à votre disposition que je pourrais évoquer dans le débat sur la force de ce mythe jusque chez les philosophes. Je peux au moins vous faire une citation de Hegel, qu'on ne va pas considérer comme nécessairement un grand idéologue au service d'une pensée dématérialisée, au sens où il servirait, par exemple, les intérêts industriels de Google ou de leur équivalent du 19e siècle. Mais écoutez-moi ça. L'esprit est possédé du besoin de se satisfaire en lui-même, de se retirer chez lui, dans l'intimité de la conscience, comme dans le véritable sanctuaire de la vérité. C'est pour cela qu'il y a quelque chose après l'art. En lui-même, l'art a cessé de répondre aux besoins les plus profonds de l'esprit. La méditation transporte au fond du cœur, au foyer de l'âme, en ce que l'art fait contempler à l'extérieur. On n'a pas le même lexique qu'on avait tout à l'heure avec Michel de Certeau, hein. Alors, on pourrait, je continuerai dans le débat si vous voulez. Donc, il faut donc reconnaître que la pensée est essentiellement technique et collective. On le sait depuis tout le temps, ceci dit, a priori, Jack Goody ne passe pas tous les soirs sur TF1, donc on ne peut pas convaincre le plus grand monde de ce phénomène. J'en suis un peu désespéré, j'ai écrit, mais ça n'a pas été. Au moins, sait-on avec l'informatique que la pensée est technique. Quand on se rend compte qu'on arrive à faire un calcul, à dessiner un graphique en une demi-seconde, alors qu'il nous fallait un temps, quelques heures pour le faire il y a 30 ans, là, on le réalise. Que la pensée soit collective, on le réalise aussi avec les moteurs de recherche, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on interroge un moteur de recherche? C'est que globalement, ce moteur nous renvoie des pages qui ont été écrites par autrui, et c'est ces pages-là qu'on va lire pour s'informer, se cultiver, construire notre pensée. C'est-à-dire on voit qu'on est pris dans un réseau collectif. Intellectuel. Alors je voudrais vite maintenant parler peut-être d'une histoire un peu plus courte de l'écriture que la longue histoire de Jack Goody, peut-être aussi pour ne pas donner l'impression que, oui, il suffit de faire référence à la longue histoire de l'écriture et de botter en touche quand on parle concrètement d'Internet, d'informatique, etc. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des phénomènes dans l'écriture qui se sont développés, qui me semblent être peut-être assez importants, le plus important étant la textualisation, la scribalisation de tout ce qui est important dans le raisonnement. Une des choses qui est très importante dans le raisonnement, c'est la preuve graphique. Alors, apprendre peut-être avec des guillemets, à partir de 1840. Vous savez, on voit sur le dessin que, eh bien, cette chose qui a des dangers multiples, hein, vous faites des analyses factorielles, si je vous présente la première, là je vous en présentais une, elle est trop belle, elle a été faite avec analyse, c'est fabuleux. On voit sur le dessin que, il y a, c'est le raisonnement par analogie, c'est ce que déteste le mathématicien, il n'y a pas pire. Ceci dit, quand vous avez un graphique absolument abominable, par exemple, vous représentez la distribution des mots d'un texte et vous ne voyez rien, parce que vous faites un simple comptage, et vous avez une impression d'équerre, et d'un seul coup vous dites je vais passer en log-log, et là vous voyez que votre graphique c'est une vraie ligne droite de pente à peu près moins 1, vous dites ça y est, j'ai trouvé une voie de puissance, je suis un homme heureux. C'est exactement comme ça que fonctionnent les physiciens, hein, ils ont un phénomène à étudier. Bon, ils disent, bon, ben, c'est ou du linéaire, ou de l'exponentiel, ou de la loi puissance inverse. Hein, bon, j'utilise, à l'époque, c'était XNGR, je regarde. Ben, c'est pas, ça n'a pas la bonne tête, la queue me ressemble, la queue de la distribution, graphiquement, ne correspond pas à ce que je voulais. Donc, je sais que ça ne va pas être telle loi que je vais pouvoir imaginer. Donc, cette preuve graphique, en fait, elle se déploie à partir de 1840. On la voit arriver dans les articles, les démonstrations des physiciens. Et elle va se développer de plus en plus. Je pourrais faire des allusions à l'écriture planaire. C'est quelque chose de très beau dans l'histoire de la pensée, mais on en parlera dans le débat si vous voulez. Ça renvoie à Descartes, ça renvoie à Joseph Fourier, ça renvoie à Hilbert, etc. Mais ce que j'ai remarqué quand je me suis amusé à faire du post-script à un moment, puis après du SVG pour faire des atlas, par exemple l'atlas de l'immigration, etc., c'est que ce qui était impressionnant avec la cartographie informatique, c'est qu'elle était évidemment considérablement simplifiée depuis qu'il y avait des ordinateurs. On faisait 1000 cartes, on testait des données plutôt que d'en faire une ou deux au du temps de l'imprimer. C'est-à-dire que, du coup, la cartographie basculait dans l'univers de l'exploration, de l'heuristique. La cartographie, qui était souvent pour les profanes comme nous, pas pour les géographes, certes, une illustration d'un phénomène, je conclue, je vous montre une bonne carte de France qui dit que, se transformait en méthode. Et ça, c'est quelque chose qui est instructif. Et ce qui était aussi intéressant, c'était de voir que comment elle avait pu se transformer en méthode, comment on avait pu basculer dans l'univers de l'expérimentation, c'est parce que tous les objets qu'il fallait manipuler, des cercles, des polygones pour dessiner des départements, etc., n'étaient plus ne relevaient plus de l'image, mais ils relevaient du texte. Alors, je peux vous montrer le source d'un SVG, etc., vous allez voir, c'est écrit fil X1, Y1, X2, Y2, etc. Et vous pouvez jouer color égal machin. Mais au point qu'avec du SVG et même du PostScript, vous pouvez faire avec j'ai pas fait la démo là aujourd'hui, mais avec un traitement de texte comme Word, vous pouvez faire une carte. Hein, remplacer recherche blue et mettez red à la place et hop, le problème est réglé. Hein, vos départements bleus, ils sont tous rouges. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait important. Tout ce qui est un peu intéressant pour la construction du raisonnement chez un matheux, un physicien, on le textualise. D'accord ? Alors, on doit textualiser quoi ? Évidemment, les graphiques structurés, les graphiques organisés. Bon, par exemple, pas difficile de comprendre qu'un histogramme avec Excel est quelque chose qui est écrit d'une certaine manière. Une carte est écrite. Les graphiques SVG, un peu sophistiqués, sont écrits. Ah, j'ai dû avoir plein de bugs dans mes... Bon, mais même des choses qui nous semblaient relever de l'image pure, comme la photo, vous allez voir, ils sont purement écrits et on peut insérer l'écriture dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je clique là-dessus? Ouais, ça marche à peu près. Donc là, je vous donne un exemple de choses réalisées en SVG. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Accessoirement, j'avais fait une... j'avais récupéré une enquête de l'INSEE sur les usages de l'Internet à l'époque. Vous savez, l'INSEE a une glorieuse époque où c'était un instrument, comme dit Bruno Latour, un instrument de l'État qui s'impliquait beaucoup dans la sociologie, qui donnait des résultats sociologiques, etc. Et puis, quand il s'est agi de nouvelles technologies, eh bien, cette chose a été oubliée et l'INSEE a préféré basculer dans la reproduction d'une religiosité par rapport aux nouvelles technologies. Et moi, en récupérant une enquête de l'INSEE donc, sur les usages d'Internet, qui vaut ce qu'elle vaut, etc., j'ai pu assez facilement montrer des corrélations fortes entre le rapport à la littératie classique et l'usage de l'Internet. En l'occurrence, vous voyez que j'avais découpé les catégories professionnelles, vous avez 5500 Français qui ont été interrogés, entre ouvriers, donc des personnes qui sont plus loin de la maîtrise écrite en fonction, regardant très attentivement les sous-catégories professionnelles qui étaient énoncées, ce que ouvrier, c'est une catégorie à moi. Après, il y a secrétaire technicien qui a disparu. Ah non, qui est resté là, artisan commerçant qui a disparu parce que globalement cette catégorie n'est pas pertinente. Secrétaire technicien et après littératie. Donc littératie, ce sont les professions lettrées. Et vous avez en même temps les pratiques de l'Internet sans objet, c'est-à-dire je n'utilise pas Internet, je l'utilise une fois par semaine, je l'utilise une fois par jour. On voit que les gens qui sont plus loin de la compétence scribale classique n'utilisait pas Internet en 2005. En revanche, on voit quelque chose qu'il ne faut surtout pas dire, hein, c'est que la télévision, c'est bien l'opium du peuple, puisque si vous regardez en vert, vous avez les usages de la télévision, non ou rare. On est heureux de découvrir que 20% des Français ne regardent pas la télévision, même si 2% d'entre eux ne l'ont pas. Les personnes qui la regardent entre 0 et 2 heures sont dans la moyenne, donc elles disparaissent. Et on voit qu'il y a une corde de proximité entre l'usage de la télévision et la faiblesse littéracienne, la faiblesse scribale des personnes. Donc, exemple tiré d'analyse, merci au Piré. Je voudrais donner un autre exemple de la capacité à textualiser qui est tiré de LaTeX, ce fameux logiciel pour mathématiciens, dont Cédric Villani, récent prix médaille Fields de mathématiques, explique dans un article que vous trouverez sur mon site web à quel point LaTeX est quelque chose qui facilite la vie du mathématicien. À partir d'une réduction extrême, on peut même écrire des accents sans avoir besoin d'un code étendu, comme le 88591, et vous avez donc manipulé à peu près 70 symboles qui vous permettent d'en fabriquer des centaines, mais en plus l'avantage c'est que la simple lecture de ces symboles, par exemple dans le mail, c'est-à-dire vous écrivez /int, ça veut dire ça va dessiner le symbole intégral, permet aux gens d'être compris. Et là, Cédric Villani explique bien que la tech a aidé grandement les mathématiciens à écrire leurs mathématiques et donc à penser. Alors vous allez me dire, c'est encore quelque chose qui est réservé aux mathématiciens, il y en a marre. Bon, c'est pas vrai. Ce que je voudrais vous montrer, qu'est-ce qu'on fait là? C'est le travail d'une étudiante qui a suivi mes cours de la tech, qui a fait l'édition de l'Advis pour dresser une bibliothèque de Gabriel Naudet, qui me semble être particulièrement intéressant. Alors, elle a fait une édition avec trois systèmes de notes. Note marginale, note de bas de page, note de fin d'ouvrage. Hein. en structurant les unes comme les autres. Vous voyez ici, je pense, index, une note marginale. Ici, vous voyez les notes de bas de page. Et ici, vous avez les renvois aux notes de fin de document. Donc, on a vraiment, cet ouvrage sera prochainement en ligne. Et du coup, je m'en doutais, il faut que je relance mon petit instrument. Il me fait quand même des surprises en matière de technologie scribale. J'ai encore quelques limites. Alors, où j'en suis? Voilà. Et donc, pour voir un petit peu l'évolution de l'écriture et éventuellement quels pourraient être les apports des sciences exactes ou les méthodes, les habitudes induites par les sciences exactes, on peut donc maintenant s'intéresser à l'informatique, un autre rapport à l'écriture contemporaine, en signalant aussi qu'il est truffé d'inculture. Et ça, c'est la position un peu délicate qu'on a toujours, c'est-à-dire comment à la fois tenter de théoriser un phénomène qu'on croit bien comprendre, qu'on peut historiciser, avec le fait de... Alors, qu'est-ce qu'on sent vraiment des fois inculte quand on manipule des choses, même si on est fier des résultats qu'on peut fabriquer. Je vous ai dit qu'on avait tendance à scribaliser énormément de choses en rabattant donc sur le texte, sur le manipulable, sur une sorte de combinatoire des choses qu'on sait faire, notamment compter les mots d'un texte, repérer tout ce qui finit par ment pour repérer les adverbes. Ça peut vous sembler être de la bêtise, mais c'est exactement ce que faisaient 95% des érudits alexandrins. Ça c'est des outils de pensée. Donc j'ai fait une petite boutade, je vous montre une photo de Jack Goody. Parfait, du JPEG, le photographe est excellent, je pense que le modèle est encore meilleur que lui. Maintenant, on va lire Jack Goody, d'accord? Excusez-moi. Voilà, Jack, c'est ça. Ren Matrix Column 060, machin. Byline E. Guichard, tiens. Encoding process, baseline DCT, Huffman coding. Ouais. Bon. Il y a un secret d'état caché là-dedans. On commence, on lit. Photo, info playback, info up-down. ISO, normal. Client, le password d'Obama et I hate Sarko. Voilà, manière de vous dire que si jamais vous voulez glisser un mot de passe dans une photo, il suffit de l'afficher en première page d'un site web et de dire à votre ami d'aller fouiller avec ExifTool dans les métadonnées inscrites dans le JPEG. C'est ça que je veux signaler. C'est une logique de textualisation que je voulais évoquer. Bon, on pourrait donner d'autres exemples. LaTeX qui me sert à produire ce diaporama avec Beamer, mais il m'a fallu un petit script père, je veux dire, je l'ai écrit à la main, quoi. Je veux dire, je vais vous montrer comment je fais. La fameuse formule de Gauss, vous savez, là, l'Institut demande à Gauss, paraît-il, quand il avait 7 ans, calcule-moi la somme des 1000 premiers nombres. Alors, si j'avais un tableau, comme quoi vous avez besoin, on a toujours besoin de toutes les technologies de l'intellect, hein, les anciennes et les modernes, c'est-à-dire le tableau, la craie ou le feutre et l'informatique, tout comme un système technique, comme l'explique Bertrand Gilles, c'est en général une superposition de systèmes techniques, c'est-à-dire on peut considérer que l'Internet et l'informatique, c'est un système technique, mais il se déploie sur un autre système technique et un mélange d'électricité et de téléphonie mobile. Vous nous enlevez l'électricité, on n'a plus rien. D'accord ? Donc là, on peut remarquer que si mécaniquement vous traitez cette somme-là, par exemple en l'inversant, en disant que ah ben tiens, c'est exactement la même chose que de faire 1000 plus 999 plus jusqu'à 1, à ce moment-là, vous écrivez ça sous forme planaire et vous voyez que toutes les colonnes C'est 1 plus 1000, 2 plus 999, ça fait 1001. Donc, la somme du tableau, c'est 1001 plus 1001 plus 1001. Combien de fois? Ben, autant de fois qu'il y a de marqué de chiffres, c'est-à-dire 1000 fois. Donc, le résultat, c'est 1000 par 1001. Donc, ça fait 1 million 1000. Mais c'est deux fois la somme, parce que vous avez ajouté une fois la somme dans l'ordre, puis après dans l'ordre inverse. Donc, le résultat qu'on vous demande, cette somme-là, c'est 500 500. C'est évident. Une fois qu'on a compris cette technique, on s'en rappelle toute sa vie. C'est applicable à la somme des 27 premiers nombres, à la somme des 5663 premiers nombres. C'est aussi essentiel pour énormément de développement mathématique. Donc là, on a une preuve manifeste de la technicité de la pensée. Je pourrais éventuellement évoquer l'atlas de l'immigration, mais je préfère faire ça. C'est un travail qui date de 1999, je suis encore assez fier de moi et de nous. On s'amusait bien quand même à cette époque-là, et ça fonctionne toujours. On en parlera dans le débat. Et peut-être quand même, pour faire une allusion à ce que m'a fait découvrir Philippe Rigiel, avec la possibilité de manipulation textuelle qui produit du graphique, ce sont ces nuages de tags que vous connaissez bien. Ici, vous avez le résumé du travail d'un collègue au Collège international de philosophie. C'est peut-être le moyen pour moi de faire le lien avec les risques de l'écriture. J'ai encore un peu de temps ou pas ? 10 ? Bon, ben c'est bon. Alors, je voudrais quand même parler de choses un peu plus... peut-être pas plus compliqué, mais regardez comment on fonctionne de certaines manières, c'est-à-dire comment on est complètement... notre vie de travailleur de l'intellect, pour allusion au travailleur de la preuve de Bachelard, est complètement entremêlée de cette technique actuelle, de cette industrie aujourd'hui. Alors, dans l'ouvrage que j'ai fait circuler, je tombe là-dessus. Nous avons également écarté la conception extrême opposée qui refuse toute réalité authentique aux éléments virtuels, position qui se confond avec un nominalisme radical. Nominalisme, je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, j'en entends parler un peu. Je sais que ça renvoie à une période assez amusante, un peu après Hugues de Saint-Victor, ça peut la... la construction, les prémices d'un esprit scientifique, d'un nouvel esprit scientifique qui va se développer à partir du XVIIe siècle, mais je n'y connais pas grand-chose. Donc, je me renvoie à la note et je dis que pour un excellent exposé critique de ça, il faut lire absolument Bouveresse. Mais qu'est-ce que je peux faire ? C'est pour vous montrer à quel point, même sous une forme un peu traditionnelle, l'écriture dans sa dimension technique est quelque chose qui est... à la fois un instrument intellectuel, mais qui va stimuler une activité intellectuelle. Il faut absolument que je cherche cette référence, que je la lise, et c'est à partir de là que je vais pouvoir un peu mieux organiser ma pensée. J'ai eu un autre souci, parce que pour préparer cette conférence, j'ai donc lu ce livre, que je conseille vraiment sincèrement à Granger, et je me suis dit, tiens, il rappelle une notion... il explique un peu ce que c'est que l'actualité. C'est un peu un concept philosophique qui est assez efficace pour dire les choses simplement, je le dirai en conclusion, mais je peux le dire tout de suite. La question, une des questions qu'on a aujourd'hui, et ça peut valoir pour l'histoire, c'est pas simplement de décrire le monde avec notre instrumentation, d'affiner nos méthodologies, d'affiner nos problématiques, de regarder la circulation entre la théorie et la pratique par l'intermédiaire de la méthode et donc de la technique. C'est qu'on a aussi l'impression qu'on peut l'écrire d'une certaine manière. Et qu'on peut l'écrire en produisant une carte qui va vous montrer, par exemple, vous pouvez le faire, que le territoire des Italiens existait en 1934-1936, jusqu'à... et qui se manifeste dans le sud-ouest français. On réalise que, à force de manipuler du texte, de produire du sens avec ce texte, On ne fait pas qu'une opération scientifique neutre, on s'implique dans des débats, et à ce moment-là, on favorise des idéologies, des formations discursives, etc. On peut, je donne un exemple tout bête, que je rencontre surtout dans les disciplines qui me sont proches, c'est qu'en ce moment, vous avez beaucoup de chercheurs qui s'investissent dans les usages de l'Internet, et à bien lire les choses, ils font de la publicité pour les derniers produits à la mode de l'Internet. C'est-à-dire, ce sont des discours d'escorte des nouvelles technologies. Je me dis que, tiens, quand vous créez... Non, ben, en ce moment, il est particulièrement difficile de rencontrer des articles qui vont vous parler de manière scientifique des usages de l'Internet, qui ne vont pas évoquer Facebook, Twitter, etc. Et vous vous rendez compte que, globalement, c'est quelque chose qui est... à la gloire de Facebook, à la gloire de Twitter, à la gloire de MSN, j'ai vu ça, les gens qui citent Marcel Mauss pour vous expliquer que là, vraiment, le fait social total de Marcel Mauss est dépassé quand même, avec l'échange électronique tel qu'il est rendu possible grâce à MSN dans les entreprises. Bon. Mais ces gens-là tiennent ont quelque part une sorte de pouvoir universitaire fort. Donc on est obligé de se poser la question de savoir comment se construisent les pouvoirs par l'intermédiaire de l'écriture et se poser la question de savoir comment ils se construisaient avant. L'idée, c'est qu'on n'est pas dans une logique de révolution, c'est qu'on est dans une logique où, si on arrive à comprendre certains phénomènes, on va voir aussi comprendre quels étaient les rapports de force, par exemple, entre des tenants de la pensée X contre la pensée Y à la fin du XIXe siècle, que ce soit quand il s'agit de promouvoir une certaine sociologie avec Durkheim, ou quand il s'agit, au contraire, de promouvoir une histoire à la gloire d'une France catholique, fille de, des grands royaumes de France, comme le faisaient les gens qui ont fondé une revue que j'évoque souvent en cours, mais ces gens-là ont été à l'école des chartes dans les années 1860, et ce n'étaient pas des grands progressistes. Non, j'ai les sources, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je veux comprendre, c'est la manière dont nous construisons la réalité, dont nous fabriquons le monde aujourd'hui avec l'Internet et comment ça se faisait avant. Et la question, heureusement, des gens comme Granger y répondent, elle n'est pas simple. Par exemple, ce qui est tout à fait manifeste, c'est que la science produit peut-être pas de la réalité, mais la réalité. C'est quelque chose qui n'est pas simple à comprendre, mais on peut, en y travaillant bien, l'élucider. Et du coup, il n'y aurait pas... Ce qui se passe, c'est qu'il n'y aurait pas nécessairement une opposition entre la réalité, le réel et le virtuel. Les philosophes auraient la préférence pour avoir une vision relativement large de la notion de réalité et de regarder les manières dont elle se déploie entre l'actuel et le virtuel. Et ça circule beaucoup, de manière beaucoup plus souple qu'on peut l'imaginer, et beaucoup plus agréable. Donc, je découvre une très jolie définition de l'actuel dans l'ouvrage de Granger, et évidemment, je ne sais plus où je l'ai lu. Donc, j'ai comme seule solution, je prends les 260 pages et je tourne et je lis l'ouvrage de Granger. Ce qui est déjà pas mal comme solution, hein, parce que vous savez que c'est une grande avancée liée à cette nouvelle technologie qui est le codex, que vantait déjà Martial, poète latin 1er siècle après Jésus-Christ, en disant, mais vraiment, si vous voulez retrouver un mot dans un texte, je vous assure que le codex est infiniment plus confortable que le papyrus. Hein. Pas seulement parce que le papyrus, dès que vous le lâchez, il serait en roule, mais vous n'avez pas la possibilité de la lecture en arrière, hein, qu'offre le codex. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, avec les techniques contemporaines, l'Internet qui nous facilite vraiment grandement la vie par rapport au codex, au sens où la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai été sur Google Books, j'ai vu que cet ouvrage était complètement numérisé, j'ai tapé « recherche actuelle », il m'a dit « c'est à page XYZT », j'ai été voir la page XYZT jusqu'au moment où j'ai trouvé les deux définitions qui m'intéressent, c'est-à-dire l'actuel et quelque chose qui relève d'une expérience avec il n'empêche pas de l'interpréter avec sa dimension sensible et affective, ni avec une perception qui soit un peu individuelle. Donc ça pour montrer comment effectivement on peut profiter d'une technicité contemporaine pour encore améliorer notre pensée. Ceci dit, n'oublions pas que cette instrumentation est particulièrement industrielle. Il nous faut un ordinateur, un système d'exploitation, un fournisseur d'accès à Internet, un moteur de recherche, des éditeurs qui n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Par exemple, Odile Jacob n'a pas la même stratégie avec Google Books que Gallimard. Vous essayez de rechercher un mot dans l'écriture de l'histoire de Certeau, c'est particulièrement difficile. Et pour insister sur la matérialité, c'était il y a bien longtemps, il y a 4 ans, un Facebook, cette entreprise championne de l'échange virtuel, payait $1 million par mois pour juste sa consommation d'électricité. Je voudrais peut-être insister, si on parle de l'industrie, j'en ai peu parlé dans mon HDR, mais sur la notion de système technique propre à cher à Bertrand Gilles, et la composer peut-être avec celle de milieu technique de Jean-Claude Beaune, qui est un des philosophes, de la technique et de la matérialité dans la filiation de François Dagonier. Peut-être parler un peu du rapport social de l'écriture contemporaine en définissant d'une part des pièges et deuxièmement des avantages. Au titre des pièges, je remarque qu'il y a beaucoup de discours populistes et technicistes, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qui cantonnent la technique dans un statut d'outils pour arriver à des fins avec une perspective purement utilitariste, qui fait, c'est là que les choses deviennent amusantes, c'est-à-dire entre les formations discursives et les idéologies. Il y a quelque chose qui se produit aujourd'hui avec l'écriture, qui nous donne à penser, qui nous interroge sur la manière dont cette pensée se construit aujourd'hui ou hier. Et vous avez des gens qui vous disent tout de suite, bah, vous inquiétez pas, la pensée pure reste telle qu'elle était, et là c'est juste un nouveau produit technique qui, effectivement, peut vous être très utile dans le cadre d'un exercice ancillaire qui va vous permettre, par exemple, de mieux manipuler des sources, de récupérer des bibliographies ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui refusent d'admettre ou de profiter du statut actuel de l'écriture pour interroger la question du lien entre technique et pensée. Et j'ai été assez critique dans un récent article sur les réseaux sociaux, et je proposais la conclusion suivante, c'est-à-dire plutôt que de contribuer à l'engouement de ce que Paul Mathias, qui a écrit Comprendre l'Internet, je crois, qui est le philosophe que évoquait Stéphane Lamassé tout à l'heure, les usages de l'homme ordinaire et ses représentations de la réalité empirique de la vie, dont, par des méthodologies diverses qui ne sont pas à l'honneur de pas mal de disciplines, on va réussir à prouver qu'ils sont des expressions scientifiques, c'est-à-dire que vraiment, si je fais 3 stats sur les pratiques, mes pratiques, mes échanges d'enseignants avec mes étudiants sur Facebook, je fais œuvre de science. Est-ce qu'on ne peut pas renverser la perspective en disant, tiens, il y a des gens qui s'intéressent aux réseaux sociaux, ils tiennent un certain type de discours, on va happer tous ces discours, en faire une analyse textuelle, et regarder les réseaux de ces gens-là, en regardant, tiens, qui travaille pour la publicité, qui travaille à l'école des télécoms, qui sont un peu assez liés à Orange Labs, qui a tout intérêt à une promotion des discours sur le web 2.0, qui, comme certains collègues universitaires, prétend que, effectivement, dans un colloque sur le renouveau de l'édition savante, il ne faut surtout pas inviter les universitaires parce que c'est casse-pied et qu'ils ne savent pas penser l'écriture. Bon, vous avez des stratégies un peu différentes. Et là, on pourrait utiliser tous les outils qui sont à disposition pour dessiner donc le graphe des auteurs en mettant en évidence leurs allégeances, leurs intérêts, leurs pratiques fédératrices, etc. Bon, ceci dit, je pense qu'il ne faut pas oublier que les choses sont en train de bouger considérablement et que nous avons besoin d'une masse critique en ce moment. C'est-à-dire que si on est seul à être expert, comme ça nous est arrivé de l'être, ben on n'arrive pas à faire boule de neige et on sera toujours avec des personnes qui auront énormément de difficultés à comprendre ce qui peut-être nous semble à tous de l'ordre de l'évidence. Je vois en ce moment, je ne vais pas tirer la couverture à moi de manière exagérée, mais je pense que j'ai fait des fois des choses assez amusantes, comme l'Atlas de l'immigration 1999, un atlas, je crois, assez sophistiqué des élections françaises en 2004, etc. Et je vois que en 2007-2008, des entreprises comme Google et après IBM finissent par, avec grand renfort de publicité, et en le faisant 10 fois mieux que moi, j'avoue, reprennent les mêmes choses. Donc, je pense que j'arrive à la conclusion que je peux peut-être dire de manière très brève en évoquant une idée. À mon avis, c'est peut-être une question qui m'intéresse en ce moment, la question de la proximité de la technique et de la culture est importante et qu'on pourrait supposer qu'il y a une équivalence entre technique et culture. Ça pourrait être le sujet d'un autre débat. Peut-être faire une courte allusion à mon plaisir à discuter avec les historiens et aussi avec les géographes en posant la question de la spatialité. D'une part, si on étudie un petit peu le statut de l'écriture, notamment en mathématiques, mais si on regarde aussi des objets un peu bizarres qui ont toujours été entre l'écriture classique et le dessin, entre le raisonnement et l'esthétique comme la carte. Et vous incitez tous, notamment en vous confrontant à l'informatique et aux informaticiens. Et je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas plus difficile de se confronter aux informaticiens qu'à la programmation, à renouer avec la philosophie et l'épistémologie. Je vous remercie.